Au sein de l'exposition Au hasard Balthazar, visible en ce moment à la friche La Belle de Mai, on peut entendre une série de conversations qui ont été enregistrées tout au long de la préparation du projet avec des artistes de la collection, mais aussi des galeristes, des curateurs, directeurs de foire, des collectionneurs proches de Benoît Doche de la Quintane. Ces conversations cherchent à mettre en lumière la fabrique collective d'une collection que l'on réduit trop souvent et hâtivement à la figure du collectionneur individuel et à une démarche privée. Ce podcast présente un montage d'extraits d'entretien mené par Thomas Boutou, le commissaire de l'exposition, avec, par ordre d'apparition, Benoît Doche de la Quintane, l'artiste Benoît Maire, Jocelyn Wolff, de la galerie Jocelyn Wolff à Romainville, l'artiste Francesco Gennari, et Philippe Manzon, directeur de la galerie Chantal Crouzel à Paris. Une production Frame Marseille, réalisation Ferdinand Arthur. Extrait d'un entretien réalisé avec l'artiste Benoît Maire.
L'idée après, au final, d'avoir, à travers un artiste, des choses aussi différentes, mais que je trouve de qualité, c'est intéressant, parce que ça passe de peinture noire complètement abstraite à une peinture potentiellement de nuages, à deux lampes, deux fauteuils, des collages, des photos. Je t'avais sollicité aussi une fois, où j'avais acheté chez un brocanteur une pièce que je trouvais finalement pas si intéressante que ça, et je t'avais sollicité pour essayer d'en faire quelque chose d'intéressant, et tu... Enfin bon, ça rassemble bien un dispositif, d'ailleurs il est incomplet parce qu'il y, a un, il y en a une partie dans la buanderie et l'autre partie qui est montrée, mais normalement l'idée c'était que comme la pièce, j'en étais plus trop satisfait mais qu'on voulait quand même la préserver, elle est roulée, en fait c'est comme un genre de tapisserie roulée, et il y a une photo de Benoît en face, voilà, que Benoît a retravaillé, ainsi de suite. Mais en gros oui, il y a une échelle des possibles qui est quand même très large. Ce qui me manque maintenant, ce sera un livre d'artiste ou une chose comme ça, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais c'est amusant de voir que, oui,
il y aura juste... Tu peux t'en gérer, là.
Non, mais je peux. Mais c'est amusant de voir, ouais, que c'est la... En tout cas...
Dans... Il me fait quelques petites commandes, finalement, tu vois. Donc, il y avait ce truc
oui,
sur cette œuvre-là que j'ai roulé, machin. Il y a eu, du coup, la petite lampe.
Complètement.
C'est une petite... Ouais.
Mais ça reste une petite pièce à toi.
Ouais. C'est un petit truc. Et là, il y a l'idée d'un reposoir à bonsaï.
Voilà, je parlais de ça. Je me disais que
c'est... Et mon idée d'ailleurs, c'est d'utiliser la forme des guéridons comme ça, mais de les passer en métal. Donc je sais pas encore, soit cuivre, soit bronze, tu vois.
Parce que je me suis dit, j'aimerais. Il aime bien les bonsaïs aussi. Donc on a, c'est vrai que dans les discussions qu'on a eues. Mmh. Et donc.
J'aurais des bonsaïs quand j'aurai un jardin.
Le truc amusant aussi, c'est que. Benoît a fait les chaises du soir, en pensant, ce qu'il m'avait dit, en tout cas, en pensant au jardin, en fait, aussi,
oui.
En partie.
Ah oui.
Ouais, en partie, hein, je pense.
C'est des chaises extérieures.
Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et qu'il aime bien le jardin à la maison, et que ça donne en partie, enfin, qu'il avait un peu pensé ça.
C'est ça. Ouais. Non, c'est ça, parce que son jardin, je le trouvais assez beau, assez inspirant. Tu le connais, son jardin.
Bien sûr.
Et tu vois, avec les bonsaïs et les trucs, c'était pas mal. Et du coup, c'est vrai que... Je t'avais dit, je pense, une chaise du soir, c'était peut-être mieux que les chaises que tu avais.
Exactement.
Dedans.
Et donc, en fait, la chaise du soir, qui fait partie de la collection, maintenant est devenue une chaise sur laquelle il y a un bonsaï. Voilà. Donc là, je me suis dit récemment, comme on était en train de discuter des lampes, que pourquoi pas faire une commande.
D'un vrai reposant.
Pour plus tard. Pour plus tard, parce qu'il faut déjà payer tout ça. Mais en tout cas, l'idée d'avoir, pour continuer, l'idée d'avoir un repose bonsaï fait par Benoît, ça me.
Ouais, je pense que ça peut être marrant.
Je pensais que ça pouvait potentiellement t'intéresser.
Ouais, ça m'intéresse.
C'est très enchevêtré.
Oui, mais c'est assez naturel.
C'est le cas d'autres collectionneurs ou c'est vraiment assez atypique avec Benoît?
Ouais, moi je connais peu mes collectionneurs, entre guillemets. Je sais que. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des pièces, quoi. Surtout, enfin, je pourrais pas dire combien, je sais, mais après, j'en connais très peu des collectionneurs.
Ouais, et puis comme on a commencé ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais,
aussi. On est tous les deux à Bordeaux, enfin maintenant je suis à Bordeaux, etc., on se voit. Non, mais il y a des collectionneurs que je connais, les gars Gantambay, par exemple, là, qui sont de Vienne, qui ont une maison à Sifour, tu vois, là, ils me font venir aussi un mois l'été prochain. Donc j'ai commencé à discuter avec eux aussi, mais ils sont venus vers moi au bout de 5-6 pièces, quoi, tu vois. Quand ils ont eu 5-6 pièces, tout ça, on s'est rencontrés à Vienne. Donc, bon voilà, pour l'instant, je les connais pas aussi bien que Benoît, donc voilà, ils m'ont pas fait de commandes ou de trucs comme ça. Mais voilà, mais c'est rare que j'ai des discussions avec les collectionneurs, enfin... On dit collectionneurs, mais c'est des gens qui ont des métiers. Enfin, d'ailleurs, quand je leur pose des questions sur leur métier, souvent ils me répondent pas. Enfin, alors que moi, ça m'intéresse vachement de parler des métiers de chacun. mais des fois c'est des trucs un peu chelous en Afrique et tout, donc ils ont pas envie d'en parler en fait. Enfin,
alors, dans le cas de Benoît,
c'est intéressant, l'imagerie médicale, on peut parler de choses et d'autres, tu vois. Y en a qui ont des métiers dont ils veulent pas parler, l'autre des business angels, on a discuté un peu de son métier, parce que moi je m'intéresse.
Ouais, toi t'as juste envie de parler d'art et de...
Ben non, parce que si c'est juste pour répondre aux questions qu'ils me posent sur mon travail, je veux dire oui, je réponds, mais moi ça m'intéresse plus de savoir ce qu'eux ils font aussi dans leur vie, quoi.
Ça t'enrichit pas autrement.
Bah oui, parce que voilà, moi ça m'intéresse, enfin tu vois, parce que justement Carré-Xavier c'est une structure économique aussi, donc ça m'intéresse de savoir comment ça se monte, une structure économique, comment des investisseurs entrent dedans, comment ça se développe, etc. Donc souvent les gens qui... On dit les collectionneurs, mais de mon point de vue, c'est des collectionneurs. Mais pour leurs collègues, c'est des golfeurs, des collectionneurs, des gens qui font du basket, qui font du bateau, qui ont des maisons et qui ont un métier. Je veux dire, donc ils sont pas, enfin leur charge ontologique la plus forte, certaines fois, c'est pas d'être collectionneur. Enfin, Pinot, nous, de notre point de vue, dans l'art, on dit c'est un collectionneur, mais c'est un chef d'entreprise, quoi. Voilà. Donc du coup, moi, ça m'intéresse de parler de leur affaire à eux aussi, quoi. Mais c'est rare qu'ils en parlent vraiment, en fait.
Extrait d'entretien réalisé avec le galeriste Jocelyn Wolff, galerie Jocelyn Wolff à Romainville.
C'est un peu l'idéal, les galeristes. On a tous nos fétiches, mais on aime bien l'idée les artistes aussi aiment bien qu'un collectionneur ne s'intéresse pas juste à une pièce, qui est une espèce de recherche à connaître et à pénétrer à travail. Et ça, effectivement, on peut le... Mais ça dépend de la pratique des artistes aussi, parce qu'il y a des artistes où on va dire qu'ils ont d'abord les pièces peuvent être complètement les mêmes, qui font des séries, les pièces sont un peu interchangeables. Mais dans la sculpture contemporaine, on a pas mal d'artistes dont le travail fonctionne beaucoup sur l'articulation entre les pièces, parce que je sais pas, depuis quand même quelques dizaines d'années, mais pas tellement plus que ça, on a une liberté d'exposer qui est davantage maîtrisée par les artistes. Et que les commissaires d'expo encouragent et accompagnent, plus que... Donc on a quand même beaucoup d'artistes qui sont devenus des spécialistes de la sculpture, enfin du paysage en sculpture, et qui articulent un propos à travers différents éléments. Et ça c'est... alors que je ne sais pas si on était, il y a une centaine d'années, dans le modèle des salons, il n'y avait pas de propos général, et il fallait que tout le travail soit résumé dans une pièce. Et j'aurais tendance à un peu opposer de façon un peu artificielle les artistes de pièces, les artistes d'exposition. Et évidemment, le jeu pour une galerie est d'arriver à autonomiser des pièces quand les artistes d'exposition sont capables. Je pense que les artistes d'exposition sont aussi capables de faire des pièces qui soient autonomes. Mais parfois, il y a plus de richesse, et c'est le cas de Katrine Cabock, à avoir un reflet de la richesse d'une intention artistique avec plusieurs pièces, que d'essayer d'avoir la pièce qui résume tout, qu'on ne trouvera pas forcément chez un artiste comme Katinka. Si on pense la collection comme une création, ce n'est pas nécessairement la manière dont on doit la penser. Il n'y a d'ailleurs pas un modèle qui est meilleur que l'autre. Mais c'est un modèle intéressant. On pourrait dire, pour définir ce modèle-là, que si on commence à... que la collection a souvent la plus de valeur en tant que tout, quand on en que somme de chaque partie. Donc, si tu prends, je sais pas, les plus belles collections qui ont été faites au XXe siècle, comme la collection Panzani-Biumo, c'est plus intéressant dans son amplitude que la somme de chacune des parties. Et qu'au final, c'est l'idée d'une collection, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est une collection de création où il y a effectivement après un dialogue entre les œuvres. Moi, je trouve ça très intéressant que Katinka et Francisco soient dans la même collection chez Benoît, par exemple. Pour moi, c'est précieux parce que je pense qu'il y a un dialogue déjà entre ces artistes que moi, je peux faire vivre dans la programmation, mais que ça puisse vivre de façon plus pérenne dans le cadre d'une collection, je trouve ça intéressant. D'autant plus si après, Benoît, il ramène sa lecture du travail de ces deux artistes et sa lecture du travail d'autres artistes et construit quelque chose. Avec Benoît, tu es un prototype de quelqu'un qui est en recherche, qui est une espèce de quête métaphysico-existentielle un peu diffuse.
Deux fois qu'on dit ça aujourd'hui.
Ouais.
Mais je me dis pareil.
Non, non, mais bon, tu as une approche plus intéressante. Et peut-être dans notre programmation, tu trouves justement un point de rencontre entre les artistes, mais qui eux-mêmes ont un travail de recherche. Tu vois, Francisco Tropas, c'est peut-être là. C'est un artiste qui fait la synthèse entre un propos vraiment. C'est vraiment un artiste intellectuel. Mmh. Et qui a quand même une pensée sur la forme. Mm. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'on a souvent des artistes, comme pour lesquels je suis assez critique, un peu déconceptuels, où c'est ce qu'ils te racontent sur le travail qui est intéressant, tu le vois moins dans les formes qu'ils produisent. Et donc des artistes qui sont aussi puissants dans la dimension, on va dire, du discours, de la métaphore, que dans le langage formel, il n'y en a pas tant que ça. Et pour moi, il faut vraiment qu'il y ait pour que ce soit une œuvre d'art, il faut qu'il y ait les deux aspects, et pas toujours quelqu'un qui était un conteur qui fait des formes un peu décevantes ou qui deviennent prétentieuses parce qu'elles sont censées contenir ce qu'on te raconte, le récit, mais sans le récit tu vois pas quels sont des contenants efficaces. Et donc je pense effectivement que tu as une profession, mais moi je vois ça aussi dans
ta famille,
mes origines de famille. Voilà, parce que ma mère était dans la recherche génétique, et s'est beaucoup intéressée à l'art, à la relation entre, a écrit aussi sur la relation entre la mythologie et la thératologie. La thératologie, c'est la science des monstres humains, et de voir pourquoi les sirènes, les Janus, etc. sont très présents dans la mythologie, et d'où ça vient, et que ce sont des malformations qui existent, qu'on a peut-être essayé de comprendre ou de métaphoriser dans le mythe, de mythifier. Et donc cette relation entre art, science, ça je comprends très bien. Le lien, et pour moi il y a un lien évident entre toutes les questions qu'on peut se poser sur l'existence, sur l'humain, sur le devenir humain, et sur la manière dont certains artistes peuvent aussi poser ces questions sous une autre forme. Et donc ça, je trouve que l'art est extrêmement intéressant pour formuler les grandes questions autrement que sous la forme d'une équation, d'une phrase, mais par rapport à un langage plastique. Et donc, on avait un peu cette tradition des médecins et du corps médical un peu intellectuel en France. Je pense que c'est moins le cas avec la surspécialisation, le côté plus technicien. Et je trouve que la rencontre avec l'art doit justement permettre d'avoir, peut-être de penser de façon un peu plus ouverte, à 360 degrés ou kaléidoscopique, les grandes questions qui occupent ceux qui veulent bien s'y intéresser, parce que la plupart des gens font un énorme travail pour ne pas se poser de questions.
Anastasie, c'était quand je l'ai. Ce weathering, c'est plus le côté. Ça n'a rien à voir avec. On va dire un côté artiste reconnu ou de marché. C'était vraiment ce qui m'intéressait, c'est. Le côté automatique et de l'instant présent dans le dessin. Ce que j'ai bien compris, hein, son dessin qu'il fait en étant avec les vibrations du métro à New York. Donc c'est plutôt le côté très poétique de la chose. Et plastiquement, ça me rappelait des images de fibres de cerveau qu'on peut faire en tractographie, même si c'est pas tout à fait le cas, mais ça avait un peu cet aspect-là. Donc c'est vraiment plus une rencontre avec visuel avec un moment où je trouvais assez poétique. Je trouve finalement que l'œuvre, elle est presque temporelle, hein, et elle est totalement. Elle échappe à son créateur, puisque finalement, c'est le jeu du hasard qui crée l'œuvre. Donc, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu. Voilà.
Extrait d'un entretien réalisé avec l'artiste Francesco Gennari.
Je me souviens très bien, ça c'est son. L'intérêt d'aller à des foires, même si il y a parfois un côté répétitif, mais on peut toujours voir des choses. Et je me souviens très bien d'avoir vu un stand de la galerie Arco à Madrid, qui était un solo show de Francisco. Où, dans mon souvenir, qui n'est pas forcément exact, il y avait trois pièces. Enfin, c'était une installation, enfin un stand assez minimal où il y avait trois ou quatre pièces de Francesco. Je pense pas beaucoup plus, mais ça il faudra redemander à Antoine. Mais un gisant qui est un autoportrait de Francesco. Alors il explique ça mieux que moi. Le titre est assez long et poétique et je n'arrive pas à le retenir. Mais en gros c'est un autoportrait de
de Francesco comme un gisant médiéval, enfin c'est comme ça que je l'interprète, et qui se veut être un autoportrait, il est en marbre rose du Portugal, si ma mémoire est bonne, et, ouais. Et qui, en gros, le titre est que c'est un autoportrait de Francesco quand les cerisiers ou les pêchers sont en fleurs, il me semble, Francesco, c'est ça le titre ?
Ouais, c'est, le titre c'est autoportrait entre un cadre et un triangle.
Et il n'y a pas une histoire avec les fleurs aussi ?
Ouais, parce que l'œuvre est un marbre rose de Portugal, voilà, qui s'appelle Fleur de pêche.
Ah, voilà, c'est ça.
Et alors, le titre c'est autoportrait entre un cadre et un triangle. Je pense en printemps, quand les arbres de pêche sont en fleurs.
C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc il y avait cette pièce.
Mais quelquefois, moi aussi, je ne rappelle pas les titres parce qu'ils sont très longs et sont plusieurs deux œuvres. Et quelquefois, je dois penser si le titre que je dis c'est juste ou je ne rappelle très bien.
Et par ailleurs, là, le titre, on le traduit, mais le titre est en italien, donc en l'occurrence.
Oui, je donne toujours des titres en italien, mais le titre, pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est une partie fondamentale des œuvres.
Peux-tu nous dire le titre en italien, d'ailleurs, si tu l'as ?
Autoritratto tra un quadrato e un triangolo quando i fiori di gli alberi di pesco sono in fiore.
Voilà, c'est ça. Quand les fleurs de pêcher sont en fleurs. Et donc, il y avait cette pièce qui était au centre du stand, et il y avait un de tes autoportraits où tu te prends en photo avec des couleurs vertes. Alors, je ne connais plus le titre de l'œuvre exactement, mais c'est une série.
Io sono quello che sono diventato.
Voilà, c'est ça.
Je suis celle que je suis devenue.
Voilà. Donc ça, c'est des photos assez énigmatiques. Et il y avait un dessin, voilà, ça me revient. Donc un dessin qui est un dessin d'un paysage de montagne qui, moi, m'a beaucoup plu tout de suite. C'est un dessin à la sanguine, donc c'est particulier parce que tu n'en as pas fait beaucoup, si j'ai bien compris.
Seulement lui.
Voilà. Et je trouvais que ça me faisait penser à des paysages de Renaissance. Enfin bon, en tout cas, mon imaginaire personnel. Ouais. Donc je me retrouvais finalement avec un autoportrait assez conceptuel à travers la photo. Ce gisant médiéval qui me faisait penser à des gisants. Enfin, c'était pas un gisant médiéval. Enfin, moi, dans mon imaginaire à moi, ça me rapprochait de gisants de l'époque médiévale que j'avais pu voir récemment en Espagne ou en Italie. Et ce dessin, je trouvais magnifique. Et donc, moi, j'avais juste vu le stand. J'étais pas du tout. J'étais avec Anne-Sophie, d'ailleurs, c'était un des premiers arcos qu'on a fait. Et j'étais pas du tout dans l'idée d'acheter quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et après, j'ai revu à la galerie, des expositions, enfin des présentations de Francesco, et donc de fil en aiguille. Et donc j'ai commencé, c'est là aussi où c'est intéressant par rapport à le parcours dans une foire.
Mais oui, je rappelle que je pense que la première fois que nous nous sommes connus, c'est chez la galerie Cacciolevi, quand j'avais fait l'expo dans le 2016, c'est possible ?
Probablement, oui.
Pendant les périodes des foires, des FIAC.
Oui, c'est sûrement
et
ça.
Et j'ai fait l'expo et là, nous nous sommes connus. Voilà. Puis après, Antoine m'a écrit pour me demander si je suis intéressé à faire une résidence chez toi.
Voilà.
Il a parlé avec Antoine et Antoine a parlé avec moi. Et après, nous avons commencé à parler entre nous.
Et là, c'est là où on s'est vraiment effectivement rencontrés. Mais entre-temps, j'avais acheté finalement les trois pièces du stand.
Que tu avais vu à Madrid.
Voilà, mais sur une temporalité de 4 ou 5 ans. Comme il y a le projet de résidence où j'essaie d'inviter des gens avec qui je pense que potentiellement il va y avoir une affinité, etc. Et puis c'est un test aussi.
Et t'as envie de passer du temps.
Voilà, enfin, en tout cas, c'est l'idée.
D'explorer davantage.
C'est
l'idée.
Et c'est vrai qu'avec Francesco, on a eu beaucoup d'échanges et on s'est enrichis mutuellement, puisque Francesco, moi
j'avais une curiosité pour cette période de l'Italie en termes d'architecture que je connaissais pas et que je comprenais pas vraiment. Donc Francesco connaît très bien ça, donc on a eu beaucoup d'échanges sur ça. J'aime beaucoup Milan parce que Francesco vit entre Pesaro et Milan, Francesco m'a beaucoup donné d'informations et de choses à voir à Milan que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'était bien. Et puis réciproquement, on a à Bordeaux, on est allé voir. On est allé faire une visite dans le Sauterre où il y a un banc d'huîtres fossilisé dans un endroit. Enfin, on a fait des choses.
Alors, mais parlons-en parce que c'est une résidence un peu particulière. C'est une résidence où il n'y a pas de. C'est pas vraiment une résidence de production. C'est pas une résidence où il y a un atelier où on peut vraiment travailler. Donc, c'est vraiment une résidence de. Autour d'affinités, de curiosités.
Mais oui, mais je vais commencer la résidence avec un but très précis. Je suis allé à Bordeaux pour dessiner. Parce que pendant le temps, j'avais toujours des difficultés parce que les voyages, les foires, l'expo, et je n'avais pas la tranquillité de me mettre avec les crayons et faire des œuvres. Alors, je suis arrivé à Bordeaux et j'avais pendant les 3 semaines de mon séjour, j'avais toujours fait des dessins. Je n'avais pas d'autres choses à faire. Le matin, je me réveille et je commence à dessiner. Et puis, quand arrivent les moments de déjeuner, nous nous sommes vus avec Benoît, avec sa épouse, avec son fils Caspar. Et nous avons mangé. Et l'après-midi, j'avais recommencé à faire des dessins. Et puis, en petite tour, en petite promenade par la ville, la soir, quand Benoît retourne de travail, nous avons mangé ensemble, nous avons fait le dîner. Et les jours suivants, c'est toujours la même chose. D'accord. Et pour moi, c'était très, très, très bon. J'avais travaillé beaucoup. J'avais travaillé plus chez Benoît pour Bonjour que non partout l'année pour le dessin. Pour le parcours de Benoît avec mes œuvres, ça marche très bien parce que j'avais un paysage très différent et il a pris la photo, le dessin, la sculpture, des choses très différentes. Et c'est un voyage qui continue parce que quand je travaille, je cherche toujours quelque chose de nouveau. Je n'aime pas beaucoup de refaire la même typologie d'œuvres plutôt fois.
Extrait d'un entretien réalisé avec Benoît Doche de La Quintane.
La collection avait commencé bien longtemps avant que je rencontre Anne-Sophie et que c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté, que je tiens à continuer à faire de mon côté, qu'on n'a pas de toute façon forcément les mêmes goûts et que c'était difficile à un moment de d'ouvrir. C'est pas comme si on avait eu un projet tous les deux au départ de faire une collection, si tu veux. Mm-hmm. Et que Anne-Sophie a un regard de curatrice, parfois très critique, donc je peux discuter avec elle de temps en temps sur les œuvres, mais je ne vais pas forcément décider en fonction de ce qu'elle va me dire, parce que on n'est pas forcément dans les mêmes types d'artistes. Sophie a un rapport plus à la performance, qui plus est, à la vidéo, à l'image en mouvement. Et moi, c'est pas la partie la plus forte de la collection et la partie la plus forte de ce qui m'intéresse dans l'art contemporain en général. Donc il y a aussi ce fait, c'est factuel, qui fait que ça crée aussi peu de croisements, on va dire, entre... on s'intéresse tous les deux à l'art, mais différents types d'art. Donc après, on peut échanger. Et parfois, elle m'a freiné sur des achats, sur des discussions, où au final, je me suis dit que j'aurais me fait d'écouter mon instinct et de le faire d'emblée, puisque moi, j'y suis revenu quand même plus tard. Et ainsi de suite. D'autres fois, elle m'a freiné et je ne l'ai pas fait. Enfin, c'est compliqué, c'est des relations de couple où tu prends des décisions, tu discutes sur des sujets liés à une passion commune, c'est parfois un peu irrationnel. Mmh. Donc c'est vrai que je fais attention aussi à ce que ça ne soit pas... un facteur qui... c'est pas que je fasse attention, c'est que j'ai appris à ne pas prendre de décision en fonction d'avis, enfin en, au sens large d'ailleurs, d'avis extérieurs, que ce soit celui d'Anne-Sophie ou de n'importe quelle personne que je côtoie, j'écoute, mais au, au final c'est plutôt c'est ma personnalité qui veut ça, je décide tout seul. Et à tort ou à raison, et j'assume, mais tu vois, si je dois me tromper, je préfère me tromper tout seul. À côté de ça, on a eu un projet commun,
voilà.
Qui est cette résidence, voilà. Qui est cette résidence d'art contemporain. Où on a, ça c'était son idée d'ailleurs au départ, et on s'est dit que bah, comme on était dans un endroit plutôt agréable, avec une maison en centre-ville que tu connais plutôt agréable, on pouvait éventuellement créer un lieu de résidence qui nous permettrait de rencontrer des artistes. Et donc on a créé un fonds de dotation, bon, qui est, ça c'est secondaire, mais c'est un support, on va dire, financier pour la résidence. Mais la première motivation, c'est la résidence, qui s'appelle Solaris. Bon, parce que moi, c'est un film Tarkovsky qui m'a... C'est pas Fenêtre de soleil, pour le coup, je savais pas qu'il y avait la marque de soleil à l'époque. Donc c'est le film Tarkovsky qui m'a... Et surtout le livre de Stanislas Lem qui m'a beaucoup marqué. Et donc, on a appelé ça Solaris. Et depuis, je sais pas, maintenant, ça fait 5 ou 6 ans, on reçoit un artiste chaque année. Alors, ça s'est un peu accéléré l'année dernière, puisqu'on a reçu 2. Cette année, on en reçoit encore 2. Là, il y en a un en ce moment, Capino Godoy, qui est là. Et donc, on a eu Christophe de Spagnatou, j'avais contacté. Après... et d'autres personnes comme Alice Théobald, ça c'est plutôt le côté Anne-Sophie, mais Anne-Sophie a produit un film, enfin la résidence, le fond, on a produit le film d'Alice qui a été montré à la Sauveur de Gabri, donc il y a quand même des choses assez sérieuses qui se sont passées avec la résidence. Et en même temps, moi souvent, alors pareil, on a, enfin la résidence, on discute, mais souvent, comme on n'a pas tout à fait les mêmes, on va dire les mêmes circuits et les mêmes intérêts, parfois on alterne un peu les, il y en a un qui choisit, puis après c'est l'autre. Donc c'est vrai que moi souvent c'est lié à des gens que je collectionne.
Voilà.
Mais bon, après aussi, parce qu'ils sont devenus, tu vois, Francisco, il y a Francisco Tropa qui est venu faire la résidence, mais comme c'est devenu un ami, c'était un processus naturel de le faire venir, parce qu'après, comme ça, on a passé un mois ensemble ici, et c'était très agréable. Après, comme autre exemple, Francesco Gennari, que je connaissais pas bien, mais ça m'a permis de le connaître, on s'est très bien entendu. Et là, on va avoir, après Camillo, on va avoir Oriol Villanova, qui m'avait invité pour réaliser une performance à Genève concernant son projet de collectionneur qui déclame l'amour à sa propre collection. Donc c'est une œuvre d'art conceptuel où plusieurs collectionneurs dans différents lieux lisent une lettre qu'a écrite Oriol. Et voilà, et donc finalement on a sympathisé avec Oriol et il viendra en septembre. Donc c'est un prolongement de la collection, mais c'est une aventure en parallèle. Et là pour le coup, c'est un projet commun avec Anne-Sophie.
Extrait d'un entretien réalisé avec Philippe Manzon, directeur de la galerie Chantal Crouzel à Paris.
Évidemment que Wang Bing est connu dans le cinéma, un peu moins dans sa partie art contemporain, dans son champ-là, mais on parle essentiellement avec des institutions. Et même s'il y a eu des touches avec des collectionneurs privés, Benoît, c'est le premier à se dire... oui, je veux y aller, je veux pousser, je veux penser cette acquisition. Et pour nous, c'est super. Enfin, c'est exactement ce qu'on attend d'un collectionneur privé, ce type d'engagement par rapport à une œuvre d'un tel artiste, qui n'est pas facile. C'est un artiste assez radical, avec des films voilà, c'est, qui peuvent être très très longs, des dispositifs pas si sophistiqués que ça, mais... Voilà, faut la vidéo aujourd'hui, c'est pas l'objet le plus collectionné en collection privée.
Il y a
une audace, mais il y a aussi, parce que quand moi je commence à parler Wang Bing avec Benoît, je sais qu'il y va avec une vraie passion, qu'il a vu des films, qu'il a lu. Et qui cherche la bonne pièce pour faire entrer dans sa collection.
Et toi, du coup, tu te renseignes ?
Ce qui est hyper rassurant.
Tu la connais, la collection ? Tu la... Vous en parlez ?
Avec Benoît, on en a parlé, ouais, parce que... Et c'est construit aussi sur, au fur et à mesure des années. Mais je vois un peu ce qui se dessine, j'ai confiance. Ouais. Je sais que c'est sérieux. Et tu t'engages pas dans le travail de Wang Bing par hasard. C'est clairement... Voilà, par rapport à d'autres œuvres qui rentrent dans des collections privées. Quand tu vas chercher un tel artiste, c'est que tu t'as des perspectives, t'as de l'audace, évidemment, et que tu construis quelque chose de personnel et de profond. Si tu ne suis pas une mode, loin de là.
C'est le début d'une première édition, et après, comme on est rentré dans une discussion, j'ai essayé de l'élargir, et on a commencé à parler en parallèle de Wangling, qui était une forme de... de choix peut-être un peu risqué ou de commitment, je ne saurais pas le traduire en français, enfin en tout cas d'affirmation, d'engagement. Ouais, on a commencé à discuter de Tillmans en même temps.
Que tu regardais depuis plus longtemps.
Ouais, bon, c'est plus facile Tillmans, parce que enfin, plus facile au sens où c'est très connu et puis c'est très beau et bon, c'est pas là. C'est plus accessible en tout cas, entre guillemets, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art contemporain, parce que tout le monde connaît Tillmans, enfin tout le monde sait. De dire ça, enfin, beaucoup de gens connaissent Tillmans, c'est que
c'est de l'objet photographique, voilà. Donc, tu peux te projeter avec.
Ouais, exactement. Et donc, on commence à discuter en même temps de Tillmans, mais auparavant, j'avais pris une petite œuvre de Tillmans, qui est une photo de Sao Paulo, avant Wang Ming aussi. Ouais. Enfin, je pense que tout ça s'était fait en parallèle, mais que c'était une petite photo de Tillmans, un petit format, qui s'appelle Sao Paulo, et que j'avais vu par hasard, ça pour l'anecdote, c'était Art Basel, et on s'était croisés, j'avais fait juste l'aller-retour dans une journée, et j'arrivais en l'occurrence de Sao Paulo, quasiment à une semaine près, parce que j'avais été à Sao Paulo pour une conférence de neuroradiologie, voilà. Donc en fait, le week-end d'avant, j'étais à Sao Paulo pour ce truc-là, et je pense une semaine après je me retrouve à... Et donc Philippe me sort de la réserve une petite photo de Sao Paulo de Tillmans, qui est très belle d'ailleurs, enfin,
qui est super
de choses de Tillmans
dans ses architectures et ses jeux de lumière.
Et donc c'était, écoutez, un peu...
Et je dois dire, là encore Benoît, on parle Tillmans, voilà, comme avec d'autres collectionneurs, il y a un éventail de possibilités, mais là encore Benoît se pose sur un choix qui n'est pas le premier choix et plein de personnes qui vont rentrer dans l'âme de Tina. Il y va avec cette photo Sao Paulo qui lui parle personnellement.
Oui, alors après, il y a cette connexion qui est amusante.
Mais c'est aussi... c'est des photos d'architecture. C'est pas les pièces sur lesquelles les gens vont fondre tout de suite. Donc il y a encore aussi un regard un peu plus fin, j'allais dire, et un peu plus personnel que beaucoup de personnes. Quand tu parlais de ce... même par rapport à ce qu'on décrit là depuis quelques minutes, entre la pièce qui rentre dans la collection, etc., et le cas de Mimosa, je pense que t'as raison de ce que t'as dit tout à l'heure. Aussi, c'est une jeune artiste par rapport à tous les artistes tout avec lesquels on a travaillé ensemble jusqu'à présent. Donc il y a peu de pièces. Là, aujourd'hui, il y a très peu de pièces de Mimosa. Et comme c'est... Il y avait ce désir, mais voilà, où rentrer, par quelle rentrée, par quoi rentrer.
Oui, il y avait aussi ça, quel était le point d'entrée
qui viendra.
Ça faisait partie des discussions.
Ça, ouais. C'était important. Ouais. Et aussi encore une autre pièce qui est assez audacieuse, on en avait parlé, mais qui fait tout à fait sens, qui sont ces plexis avec de la cire, de la résine, mais aussi de l'urine. Et là, encore une fois, c'est... un peu. Moi, je pense que c'est une pièce très importante dans ce moment-là, en regard du prix Marcel Duchamp et de la belle installation qu'elle a fait à Pompidou. C'est ce témoin-là, clairement.
C'est la pièce qui m'a le plus convaincu, d'ailleurs, d'emblée. Ouais.
Et voilà, encore une fois, là, Benoît est là-dessus. Quand il voit cette pièce, il pointe ça et OK, là, il se passe quelque chose de vraiment intéressant.
Mais l'autre pièce qui a un côté aussi dispositif, un peu de théâtre, avec, je sais plus le nom en fait, je l'ai perdu. Tu sais, c'est la rouge avec...
Avec le nylon, voilà. Noué. Ouais. Ouais. Et ça, c'est en... Ça aussi, c'est des... Voilà, moi je trouve que Benoît, là-dessus, on revient un peu à ce qu'on se disait au contraire. Il projette aussi des choses dans ses pièces, très personnelles, mais qui construisent. Qui font sens, qui font écho à d'autres choses. On en parle souvent aussi, de ta collection actuelle et comment les échos qui peuvent se faire entre les pièces qui vont rentrer petit à petit et les artistes que tu veux faire
rentrer. Oui, parce que maintenant c'est un ensemble à peu près construit, donc c'est vrai que j'ai quand même une forme de... c'est pas une contrainte, mais j'essaie de faire attention à ne pas dénaturer un ensemble qui est plutôt homogène, en tout cas qui se tient aujourd'hui. Ça veut pas dire que je ne le ferai pas par inadvertance ou par goût, mais j'essaie quand même de garder une certaine cohérence qui existe a priori, vu le retard qu'on emporte sur l'extérieur, qui existe aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément une cohérence que j'avais anticipée ou que j'avais construite.
Bien sûr,
je suis pas parti avec un plan préconçu de ce que je voulais. Je me suis pas dit je vais collectionner.
Enfin, c'est une architecture.
Oui,
mais qui ressemble pas forcément à celle d'à côté.
Ouais.
En tant que galeriste, évidemment qu'on a des liens marchands avec nos collectionneurs, mais je dois dire que le milieu et la manière de faire est marchande rapproche les gens quand même. On a en général, on initie quand même des relations et des bonnes relations avec nos collectionneurs qui ne sont pas uniquement basés sur l'idée que demain ils vont revenir acheter une pièce. Comme on parlait d'écosystème, en général, c'est des gens qu'on croise plusieurs fois pendant l'année, à nos expositions, nos foires, expositions hors galerie. On est amené à se recroiser. C'est cet écosystème-là.
C'est un compagnonnage aussi.
Ouais. Et là, avec Benoît, pour moi, c'est d'autant plus agréable. Et il y a un rapport de confiance qu'on a su.
Oui, qui mange dans les deux sens.
Là, cette idée de confiance, évidemment qu'elle peut être marchande, parce que ça fait partie du rituel marchand, la confiance, mais je pense qu'elle est un peu au-delà de ça. Et après, ça, c'est pas avec tout le monde, on a des champs d'intérêt communs, qu'on s'est passé un dîner ensemble, comme on disait, et parler d'autres choses que le simple programme de la galerie. C'est important. Ça. Et c'est comme ça qu'après, les relations durent
sur la durée. Ouais. Ouais.